Voici le journal de Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Eric et bonjour à tous. À la une de l'actualité, un 10e sacre mondial pour la montagne du judo français. Teddy Riner hier à Marrakech et la défaite sans surprise en rugby du 15 tricolore battu 38-18 par les All Blacks hier soir au Stade de France. Rendez-vous dans le journal des sports présenté par Laetitia Bernard. Dans l'actualité également, cette démonstration de force des indépendantistes catalans hier après-midi dans les rues de Barcelone. Ils étaient 750 000 à réclamer la libération de leurs dirigeants incarcérés. À suivre, le calvaire subi par une adolescente de Nîmes, séquestrée et violentée par sa famille. Et un petit tour à la fin de ce journal par la Foire du Livre de Brive. C'est donc à une nouvelle démonstration de force que viennent de se livrer les indépendantistes catalans. Quelques 750 000 manifestants, selon la police municipale, sont descendus hier en fin d'après-midi dans les rues de Barcelone pour réclamer la libération des ex-ministres de Carles Puigdemont, actuellement incarcérés. Un rassemblement plutôt calme, pratiquement un mois des élections législatives anticipées. Un rassemblement suivi par notre envoyé spécial Marie-Pierre Véraud.
Une marée de drapeaux de la Catalogne indépendante, une foule compacte sur près de 3 km qui scande « Libertat », liberté pour ces prisonniers politiques. Une grande bannière proclamant « Nous sommes une république ». Les indépendantistes catalans ont réussi leur démonstration de force hier à Barcelone. Ils sont venus en famille, toutes générations confondues, pour crier leur soutien aux 10 indépendantistes incarcérés à Madrid. Une foule qui martèle que la rue est à elle, siffle l'hélicoptère de la police espagnole qui la survole. Une foule bon enfant toutefois, qui lève et agite ses mains en signe de paix. Les familles des prisonniers sont venues dire quelques mots au micro. Un message du président destitué Puigdemont a aussi été diffusé. Il les appelle à se faire entendre de tout le monde. D'ailleurs, certains manifestants brandissaient le drapeau européen. Mais même s'ils s'avouent déçus par le manque de solidarité des autres États membres, ils sont convaincus que l'indépendance verra le jour. À Barcelone, Arthur Gerbeau, Marie-Pierre Véraud, France Inter.
Bête noire des indépendantistes, le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy est attendu aujourd'hui à Barcelone, où il vient soutenir les candidats de son parti. Ce sera le premier voyage du Premier ministre dans la capitale catalane depuis que la région a été mise sous tutelle par Madrid.
Donald Trump poursuit sa visite en Asie. Après le Vietnam, le président américain est attendu aujourd'hui à Manille, aux Philippines.
Manille, où une rencontre des plus improbables va se produire, va avoir lieu, celle de Donald Trump et de son homologue philippin Rodrigo Duterte. Deux chefs d'État pour le moins atypiques et dont les outrances respectives pourraient réserver bien des surprises, Luc Lemonnier.
Les Philippines et les États-Unis entretiennent des relations fortes. Ils sont liés par un traité de défense et Washington prête la main lorsque Manille le réclame. Enfin, ça c'était avant l'arrivée au pouvoir de Rodrigo Duterte. Depuis un an, ça se dégrade. Il faut dire que le président philippin y met du sien. Il avait traité Barack Obama de fils de pute et annoncé qu'il n'irait jamais aux États-Unis, qu'il trouvait nul. C'est dans le style du personnage qui reconnaît avoir déjà tué, qui menace de massacrer les toxicomanes et de gifler les représentants de l'ONU. Des saillies tout en finesse que ses conseillers tentent de désamorcer en parlant de plaisanterie. Sur le fond, Rodrigo Duterte opère un changement de cap. Il se rapproche de la Russie, dont il qualifie son leader de héros. Il ne tarit pas d'éloges à l'endroit de la Chine. Et il reste extrêmement populaire dans son pays, avec un taux de satisfaction de 75% et un taux de croissance de presque 7%. Ce qui en fait l'une des économies les plus performantes de l'Asie-Pacifique. Duterte face à Trump, les diplomates vont transpirer.
Oui, et Donald Trump qui, avant de quitter Hanoï, n'a pas pu s'empêcher de se livrer à quelques tweets. Tweet pour apporter l'intention du président chinois de renforcer les sanctions de son pays à l'égard de la Corée du Nord, ou bien encore pour qualifier le président nord-coréen de « petit gros ». Il faut préciser que le président américain n'a pas du tout apprécié de se faire traiter de « vieux gâteux » par son homologue nord-coréen.
Retour en France, Serge, avec l'histoire de cette adolescente nîmoise de 17 ans séquestrée et battue par sa famille.
Enlevée à la sortie de son lycée, sous les yeux de son éducateur, lui-même molesté, une jeune fille de 17 ans a en effet été séquestrée durant 3 jours, attachée sur une chaise, frappée, privée de nourriture et même de se rendre aux toilettes. Ses tortionnaires, son propre père et ses deux frères, avec, semble-t-il, la complicité de la mère. Une famille qui n'était, semble-t-il, pas d'accord avec les fréquentations de l'adolescente. Toujours est-il que les policiers ont fait le maximum pour retrouver la jeune fille au plus vite. Les précisions du procureur de la République de Nîmes, Éric Morel, joint au téléphone par Fabien Fourel.
Un certain nombre d'éléments qui ont été découverts par les enquêteurs nous laissaient présumer qu'il était possible qu'on cherche à lui faire quitter le territoire national. Donc c'était une urgence absolue pour nous. Les policiers ont mis en œuvre des moyens techniques extrêmement sophistiqués qui sont rarement utilisés mais qui nous ont permis de localiser très rapidement et la secourir. Elle était séquestrée dans un appartement, ligotée sur une chaise et elle était victime de violences extrêmes de la part de ses frères. Ça a duré 2 à 3 jours. La jeune fille a été retrouvée avec le visage tuméfié, le nez fracturé, n'ayant pas mangé depuis de nombreuses heures. Donc nous avons considéré que sur le plan juridique, ça constituait des actes de torture et de barbarie. Plusieurs hypothèses sont retenues. L'une d'entre elles semble être le fait qu'elle ait peut-être été amoureuse d'un jeune homme qui n'avait pas le plaisir de trouver l'assentiment de sa famille.
Les parents et les deux frères de la victime ont été mis en examen et placés en détention provisoire le temps de l'instruction. Politique en bref, l'ancienne porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, l'une des figures de la France insoumise, Raquel Garrido, explique dans les colonnes du JDD pourquoi elle a décidé d'arrêter la politique et de se consacrer à la télévision. Principal motif, selon elle, une injonction du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, de faire un choix entre la politique et la télé. Et puis je vous rappelle que le Premier ministre Édouard Philippe sera demain matin à 8h20 sur France Inter, l'invité de Nicolas Demeurand. La sécheresse et ses conséquences, ce n'est pas évident à repérer, mais il faut savoir que le Rhône enregistre une baisse de 30% d'eau. De fait, son débit moyen s'est retrouvé divisé par 2 les mois d'août et de septembre. Une situation qui n'est pas sans inquiéter la patronne de la Compagnie nationale du Rhône, Elisabeth Hérault.
Il y a 2 conséquences. Il y a une première conséquence qui est la conséquence financière, bien entendu. Mais il y a une deuxième conséquence qui est que nous avons dans notre contrat l'obligation de gérer tous les usages du Rhône. Et quand il y a moins d'eau, on a du mal à gérer. Par exemple, nous alimentons les centrales nucléaires. Qu'est-ce qui se passerait si on n'avait plus assez d'eau pour alimenter les centrales nucléaires? Nous avons la navigation, l'irrigation pour l'agriculture. Qu'est-ce qui se passe quand on ne peut plus donner d'eau? Mais c'est aussi l'eau potable. Ce sont les poissons, les animaux qui vivent autour du Rhône. C'est tout cela, le Rhône. Et ensuite seulement, c'est l'hydroélectricité, le chiffre d'affaires. Mais on commence d'abord par les premières choses. Ceux qui veulent nier vont vous dire que la sécheresse a déjà eu lieu. Oui, elle a déjà eu lieu. En 2011, effectivement, il y avait peu d'eau dans le Rhône. Ce qu'on constate juste, c'est qu'avant, elle avait lieu sur des pas de temps longs et que maintenant, elle a lieu de plus en plus souvent et que ce n'est pas normal au mois de décembre de ne pas avoir d'eau dans le Rhône, par exemple, ce qui était le cas en décembre 2016.
Des propos recueillis par Victor Vasseur.
Et pour refermer ce journal, Serge, vous nous emmenez en Corrèze, à Brive-la-Gaillarde précisément.
Oui, Brive où se tient en ce moment la Foire du Livre que connaît bien Patricia Martin. Rendez-vous incontournable du monde de l'édition après le marathon de la rentrée littéraire. L'opportunité en quelque sorte de faire taire les rivalités, Ilana Mauriosef.
À Brive, il est beaucoup question d'amour. D'abord, avec Amélie Nothomb, toujours ravie de retrouver ses fans.
Ça me touche. J'ai vraiment l'impression de retrouver mes fidèles amis. Ça me fait très chaud au cœur.
Avec Jean-Louis Debré aussi, ancien président du Conseil constitutionnel et surtout corrézien par amitié.
Ça fait à peu près 14 ans que je viens au Salon du Livre de Brive. Pour moi, la Corrèze, c'est le bonheur parce que j'ai une profonde affection pour Jacques Chirac depuis toujours.
C'est aussi le moment où le petit monde de l'édition décompresse. Philippe Génada, prix Femina 2017.
C'est la fin de la saison, quoi. Les prix sont passés. Là, ça fait 3 mois qu'on est sur les routes, qu'on fait des salons, des librairies, des signatures. C'est un grand plaisir, mais c'est fatigant quand même. Et donc là, ça y est, tout le monde sait qu'après Brive, c'est fini, c'est l'acquis.
Mais dès lundi, l'amour vache reprendra ses droits. Jean-Loup Chifflet, éditeur.
Ils se mélangent tous. Tous ceux qui vont se tirer dans les pattes la semaine prochaine dans les réunions de représentants, ils sont là, ils chantent tous ensemble. C'est formidable.
Brive, Ilana Mauriosef, France
Inter. Oui, plus de 300 auteurs et pas moins d'une centaine de maisons d'édition se sont donné rendez-vous à cette foire du livre de Brive, foire qui refermera ses portes ce soir. C'est la fin de ce journal et c'est à vous Éric Delvaux.
C'était le journal de Serge Martin.